Soyez les bienvenus sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 30 janvier. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un premier avion français a quitté Paris hier soir pour la Chine. Il devrait rapatrier 200 Français qui souhaitent quitter Wuhan, foyer d'une épidémie de coronavirus qui a fait, selon un dernier bilan, 170 morts et près de 8000 cas recensés en France. Un cinquième cas a été recensé. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Le retour médiatique de François Fillon ce soir avant son procès dans trois semaines. France Inter a pu consulter l'ordonnance de renvoi. Quand les GMES veulent faire de leur combat une loi, reportage dans les territoires palestiniens où les habitants sont désabusés, et puis coup de tête, un excellent film, mais un geste potentiellement dangereux pour nos enfants.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui sera à notre micro. Et puis à 8h20, le témoignage exceptionnel, bouleversant, de la championne française de patinage artistique, Sarah Abitbol, qui publie un si long silence aux éditions Plomb. Entretien qui sera suivi de la réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. 206 ressortissants japonais et 210 américains ont quitté Wuhan hier. Ottawa a décidé d'affréter un avion pour rapatrier les 160 Canadiens qui en ont fait la demande. L'Australie a prévu de placer en quarantaine sur l'île Christmas ses ressortissants en cours d'évacuation. Et la France s'apprête donc à participer au rapatriement des 600 Européens qui souhaitent quitter l'épicentre de l'épidémie. Un avion a d'ailleurs décollé donc hier soir de Paris. Alors comment ce rapatriement va-t-il s'organiser? Élément de réponse avec Tommy Cataneo.
À bord de cet Airbus A340 de l'armée de l'air, une équipe médicale d'une vingtaine de personnes, des médecins, des infirmiers, des psychologues, qui prendront en charge environ 200 Français, a priori sains, comme l'a expliqué Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.
Des personnes qui sont a priori indemnes de l'infection. Cela ne veut pas dire qu'elles ne tomberont pas malades, mais elles n'ont aucun symptôme.
Atterrissage prévu en France demain dans la journée. Les passagers seront ensuite placés 14 jours en quarantaine dans un lieu qui n'est pas encore défini, dit le ministère. Mesure de précaution pour éviter tout risque d'infection. Un deuxième avion doit partir aujourd'hui ou demain direction Wuhan pour ramener d'autres Français, mais aussi des ressortissants européens, parce que plusieurs pays ont fait cette demande à la France, l'Allemagne, la Pologne, le Danemark ou encore l'Espagne. Enfin, les malades, eux aussi, pourront rentrer, a dit Agnès Buzyn, mais sur d'autres vols.
Si sur place des personnes ont des symptômes, sont malades, elles seront accompagnées par l'équipe médicale et elles seront rapatriées par des vols sanitaires spécifiques afin d'être hospitalisées en France.
On le sait, plusieurs Français de Wuhan et de sa province ne souhaitent pas revenir en France. Certains ne veulent pas être séparés de leur famille et d'autres se disent que quitte à être confinés, autant l'être en Chine, chez eux.
Et certains veulent aussi rester pour préserver leur activité professionnelle, même si aujourd'hui la ville est quasiment paralysée. De nombreuses entreprises françaises sont installées à Wuhan, de PSA à Renault, en passant par Valeo, Suez, Accor, Sanofi ou LVMH. Il faut dire, Nathalie Charbonnier, que les liens entre la France et la ville de Wuhan sont très anciens.
C'est en 1861 que va naître un lien unique avec Wuhan. À cette époque, un quartier de la ville devient concession française. Il faudra attendre 1896 pour que notre pays y installe une administration avec consulat, église, commissariat et banque. Et pour la petite histoire, la ville accueillera l'écrivain et diplomate Paul Claudel. Une concession qui durera jusqu'en 1943, mais le lien ne sera pas pour autant coupé. On y enseigne encore le français dans certaines écoles. Un consulat y ouvre ses portes en 1998. Mais surtout, nos entreprises vont s'y implanter, notamment dans le secteur de l'automobile. Présence de Citroën, Peugeot, Renault ou encore des sociétés comme L'Oréal ou la société générale. Au total, ce sont près d'une centaine d'entreprises tricolores qui y vivent. Mais le lien entre la France et la ville de Wuhan ne s'arrête pas là, avec un partenariat unique entre la ville et le département de l'Essonne depuis 2007. Un protocole de jumelage les réunit depuis avec des actions très concrètes dans de nombreux domaines. Le dernier plan d'action court jusqu'en 2022.
Enfin, en France, un cinquième cas a été recensé officiellement hier. Il s'agit de la fille du touriste chinois hospitalisé à l'hôpital Bichat en réanimation. Un autre cas semble d'ailleurs préoccupant ce matin, celui du touriste chinois âgé de 31 ans, dont l'état s'est dégradé et qui a désormais besoin d'une assistance respiratoire.
Il est 7h05, Agnès, à un mois et demi du premier tour des municipales, La République En Marche se met en ordre de bataille.
Étrange, enfin, à Paris, Cédric Villani est écarté du parti, même s'il n'est pas officiellement exclu, et à Biarritz, où deux ministres se présentaient sur deux listes différentes, la décision est radicale. Ni Didier Guillaume, ni Jean-Baptiste Lemoyne ne brigueront les suffrages des électeurs. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Lui se tient loin de la politique depuis plus de 2 ans, depuis l'échec retentissant au premier tour de l'élection présidentielle avec les révélations sur les emplois supposés fictifs de son épouse. François Fillon revient donc sur le devant de la scène médiatique ce soir. Objectif, convaincre l'opinion publique avant l'ouverture de son procès dans 3 semaines. France Inter a donc pu consulter l'ordonnance de renvoi longue de 150 pages. Corinne Audouin.
Le tout premier contrat de collaborateur parlementaire signé par Pénélope Fillon remonte à 1981. 30 000 francs pour un travail sur l'aménagement du bocage, demandé par son mari député. Ces faits ne sont pas poursuivis, mais les juges y voient le début d'un système. Les contrats s'enchaînent. Malgré 5 grossesses entre 82 et 2001, elle ne prenait aucun congé maternité, s'étonnent les magistrats. Entre 98 et 2002, elle touche 20 000 francs par mois, 3 fois plus que les autres collaborateurs. En tout, Pénélope Fillon a ainsi reçu plus d'1 million d'euros de fonds publics. Que faisait-elle en échange de ces émoluments? Les juges ont interrogé des dizaines de témoins, lu toute la presse locale, perquisitionné partout. Le bilan est maigre. Selon leurs proches, elle était le relais local, les yeux et les oreilles de François Fillon dans la Sarthe. Mais elle n'a pas produit de notes écrites, n'avait pas de bureau. Les journalistes locaux n'avaient même pas son numéro. Les magistrats concluent que les conseils, le soutien moral, l'appui constant qu'elle dit avoir apporté à son mari relève de la vie privée et des relations entre époux et pas d'une activité salariée, surtout sur fonds publics.
François Fillon qui sera donc l'invité exceptionnel de Vous avez la parole ce soir sur France 2 avec Léa Salamé et Thomas Soto. Syndicats et patronats ont 3 mois pour trouver 12 milliards d'euros, montant estimé du déficit du système de retraite en 2027. La première réunion de cette conférence du financement se tient aujourd'hui. Il sera question de méthode et de calendrier. L'intersyndicale, c'est CGT, FO, FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse appellent déjà à une 9e journée de mobilisation le jeudi 6 février, même si hier la mobilisation a nettement marqué le pas. Moins de 110 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur contre 249 000 vendredi dernier. Le combat continue pour les GMES, ces 157 salariés creusois d'un sous-traitant automobile mis à la porte il y a 3 ans, faute de commande de la part de leur donneur d'ordre, PSA et Renault. Le Conseil d'État vient d'abord de leur donner raison sur l'invalidité du plan social. Et pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, des anciens ouvriers de la souterraine, avec le soutien d'élus de gauche, ont déposé hier, Maxime Debs, une proposition de loi à l'Assemblée nationale.
Dans le collimateur de cette proposition de loi, les donneurs d'ordre, précisément les grosses entreprises d'au moins 5000 salariés qui sous-traitent aux plus petites une partie de leur activité jusqu'au jour où elles n'en ont plus besoin. Des pratiques qui doivent cesser pour le député communiste Pierre Dharréville.
Quand vous avez une entreprise qui dépend d'un ou deux donneurs d'ordre, finalement qui dirige réellement l'entreprise ? C'est le donneur d'ordre.
Conclusion, il faut que ces entreprises soient soumises à des obligations comme le respect de certains engagements, par exemple sur les délais de paiement. Dans le cas de GMES, le carnet de commandes se vidant, l'État a plusieurs fois ces derniers mois convoqué les responsables de Renault et PSA. C'est bien que les constructeurs ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe dans les territoires, estime Vincent Labrousse, ancien salarié licencié en 2018.
Ils avaient une responsabilité quand même. Sinon, PSA et Renault, ils avaient autre chose à faire que de venir autour de la table. Donc c'est cette contradiction-là qu'il faut résoudre. Il faut qu'on ait des outils de droit pour qu'ils assument leur responsabilité jusqu'au bout quand ils provoquent des licenciements ou des fermetures d'entreprise.
Reste à convaincre les élus de la majorité d'aller en ce sens, ce qui ne sera pas chose aisée.
Les députés que l'on va rencontrer, on va leur dire c'est oui, c'est non ou c'est merde. Mais ils ne pourront pas taper en touche quoi, et pas faire du louvoiement.
Et Vincent Labrousse de prévenir en cas de réponse tardive ou négative, les élus devront s'en expliquer.
France Inter, 7h09, des lendemains qui déchantent dans les territoires palestiniens.
L'armée israélienne a renforcé sa présence en Cisjordanie et près de Gaza, car le plan américain pour une hypothétique paix au Proche-Orient a été très mal accueilli par les Palestiniens. Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza vers Israël hier. Mais les habitants des territoires semblent partagés entre résignation et colère. Reportage sur place d'Alice Froussard.
Le sujet n'est pas tabou, mais la plupart des Palestiniens préfèrent ne pas y penser. La nouvelle est encore difficile à digérer. Fikri l'avoue ouvertement, ce plan Trump, c'est surtout une reconnaissance du fait accompli.
Vous pouvez voir qu'une partie de ce plan existe déjà. Rien ne changera de manière drastique, à part peut-être que cela concrétise la solution à un État.
Mohamed, 29 ans, acquiesce, mais lève les yeux au ciel et précise que tout va être encore un peu plus compliqué.
Ça risque de causer plus de violence entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça va rendre les déplacements presque impossibles. Ce sera encore plus l'apartheid.
L'accès à l'eau, lui, risque d'être amoindri. La plupart des terres fertiles se trouvent dans la vallée du Jourdain ou dans des zones qui seront annexées. Qassam Mohadi est journaliste palestinien indépendant.
On veut injecter de l'argent de façon artificielle en même temps qu'on consacre le vol des ressources naturelles qui sont dans les territoires palestiniens. C'est déjà volé, ça va être annexé. Mais ça ne peut pas générer un vrai développement à long terme. Et ça, c'est inquiétant.
Mais les Palestiniens sont divisés, la perspective régionale est défavorable et les Européens n'ont pas encore de ligne claire et unie. Il n'y a donc pas beaucoup d'options à court terme pour empêcher la mise en œuvre de ce plan. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Le parquet de Tokyo émet ce matin un mandat d'arrêt contre Carlos Ghosn. La justice japonaise reproche à l'ancien patron de Nissan d'avoir fui le pays illégalement. On connaissait les dangers des commotions cérébrales dans le rugby. Faire des têtes au foot n'est également pas sans risque, notamment pour les plus jeunes. La fédération écossaise veut même bannir ce geste à l'entraînement pour les moins de 11 ans. Une étude fait en effet un lien entre la pratique du foot et le risque de mourir d'une maladie neurodégénérative. Alors, faut-il s'inquiéter ou non? Reportage de Jérôme Val dans le club de Dives-sur-Mer, Cabourg, près de Caen.
Bonjour à tous les garçons.
Bonjour. Séance d'entraînement en soirée pour les jeunes du sport Union Dives-Cabourg à l'abri dans un gymnase.
En place,
Yoni est défenseur et capitaine de l'équipe des moins de 15.
Je suis défenseur central et du coup sur les corners je monte et je mets mes petites têtes, j'aime bien.
Rémi Vaubrun est éducateur depuis 8 saisons dans ce club qui accueille plus de 220 garçons et quelques filles.
On a tous été joueurs, c'est vrai que bon, les séances de tête pure on n'en a jamais vraiment connues, donc je me vois mal au jour d'aujourd'hui faire une séance où pendant une demi-heure les enfants enchaînent tête sur tête. Non, c'est pas possible.
Ça a été ? Ouais. Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau de la tête, là ?
Non. Une étude menée par une équipe de recherche de Glasgow en Écosse jette le trouble. Elle montre que les footballeurs ont 3,5 fois plus de chances de succomber des suites d'une pathologie neurologique que le reste de la population. Mais comme le précise Emmanuel Laurent, directeur médical de la Fédération française de football, impossible pour l'instant de savoir pourquoi.
En fait, on n'a jamais démontré de lien avec le football et encore moins avec le problème des jeux de tête.
Mais au nom du principe de précaution, l'UEFA devrait préconiser dans les prochaines semaines de limiter au maximum l'utilisation de la tête chez les moins de 11 ans, ou plutôt de le faire autrement.
On va leur apprendre à muscler les cervicales, comme au rugby, à faire une bonne tête, c'est apprendre à faire une bonne technique de tête.
Et une autre piste serait d'avoir des ballons moins gonflés pour les enfants.
Gonflés, eux, les amateurs d'Épinal, club de National 2 qui s'offre un club de Ligue 1, en l'occurrence Lille, en 8e de finale de la Coupe de France. Victoire 2-1 hier soir, le PSG lui n'a pas tremblé. Victoire 2-0 face à Pau, club de National. L'OM a battu Strasbourg 3-1. Dernier match ce soir, Nice-Lyon.
Merci Agnès Soubirand.